Je suis avec Robin Campillo, qui est de passage à Genève, pour parler de son film 120 battements par minute. J'espère que l'on m'entend, parce qu'il y a des fans qui sont là en train d'hurler en présence de Robin. Qui a remporté, vous avez remporté au dernier festival de Cannes, où le film a été ovationné, le Grand Prix, le Prix du public, et le Prix FIPRICHI, donc la Fédération internationale des journalistes. Et en plus, Pedro Almodóvar, qui était le président, aurait bien voulu vous donner la palme. Et à regret, il a fait sentir qu'il s'était incliné devant les membres de son jury. Donc Robin, est-ce qu'on peut parler de la genèse de ce film qui a vraiment remporté à l'unanimité l'appréciation tant du public que de la presse? C'est une genèse, d'après ce que j'ai compris à la conférence de presse cannoise, qui a été très longue, presque une gestation.
Ça a été une gestation de plusieurs décennies, en fait. Le désir de faire un film là-dessus, il a commencé, ça va être un peu long, hein, j'en suis désolé, il a commencé avec le début de l'épidémie, en tout cas en France, en 82, l'annonce de l'épidémie dans les médias, qui a été pour moi un choc. J'ai compris que quelque chose de grave était en train de se passer, et ça m'a, en tant que jeune gay à l'époque, j'ai eu très très peur, surtout qu'on désignait beaucoup les gays comme les victimes, qui allaient le gros des victimes de l'épidémie, donc il y avait vraiment une inquiétude très très forte. C'est l'époque où je commence à faire du cinéma, où je rentre à l'IDEC, en fait, l'école de cinéma, où je rencontre Laurent Canter, notre réalisateur, et je pense que toute ma vie durant, je me suis demandé comment le cinéma allait pouvoir traiter cet événement-là. Et j'ai eu toujours des désirs de faire un film là-dessus, mais le sida, c'est pas un sujet de cinéma en soi. Il faut trouver une fiction, il faut trouver un film à faire, un objet qui peut pas être juste l'épidémie comme ça. Et donc en 92, je rentre à Acte Paris dans ce groupe de lutte contre le sida. Après 10 ans de silence en France sur l'épidémie et une absence, comme souvent en France,
de prise de conscience
et puis de manière pragmatique des politiques de gérer ce genre d'événement. Ça manque beaucoup dans notre pays, et c'est vrai que je rentre en 92 à ACT UP assez en colère, et c'est un endroit où des gens comme moi, qui avaient vécu un peu toute cette épidémie dans leur coin, se retrouvent ensemble, et c'est en fait assez jubilatoire, même si c'est la période la plus dure de l'épidémie à ce moment-là, parce que c'est l'époque où beaucoup de gens meurent. C'est un groupe de survie par gros temps qui est assez admirable, et c'est vrai que en fait c'est assez récemment, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, que je me suis dit qu'en fait, plutôt que de traiter la solitude de la maladie, comme ça a été beaucoup traité d'un malade qui avance dans la maladie, etc., je voulais au contraire montrer ce moment collectif de prise de conscience et de prise en main collective de l'épidémie qui avait été si crucial dans ma vie, et qui c'est un truc assez minoritaire à Paris à l'époque, et donc j'avais envie de repartir de là et de repartir de ma mémoire pour écrire ce scénario et cette fiction, recomposer à travers ma mémoire une fiction qui me semblait raconter un petit peu ce qui s'était passé à ce moment de l'histoire en France, quoi.
Et Robin Campillo, je rebondis sur ce que vous dites. Là, on sent qu'il y a une émulation collective, qu'il y a une solidarité. D'ailleurs, on réalise à travers votre film qu'il y a des gens d'univers très différents qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui se rencontrent. Ouais. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, il y avait eu, même un peu plus, les Nuits Fauves de Cyril Collard, où là, on comprenait qu'il y avait beaucoup de solitude. Et chez vous, on comprend qu'il y a vraiment une solidarité, un mouvement d'ensemble.
Oui, c'était ça. C'est-à-dire que moi, j'étais un tout petit peu... déjà sur les films en France, j'ai l'impression sur les films qui traitaient de l'homosexualité, il y avait déjà beaucoup de solitude, qui était un truc dans lequel on était empêtré, je pense, symboliquement, etc.
Et stigmatisation.
De stigmatisation, mais d'auto-stigmatisation aussi, hein, parce que c'était pas forcément le reste de la société. La stigmatisation, elle existait au début de l'épidémie, parce qu'en fait, on a désigné les homosexuels comme des personnes qui devaient majoritairement mourir de cette épidémie, ce qui n'est pas entièrement faux par ailleurs. C'est la première fois qu'on voyait même des homosexuels dans les journaux, mais on montrait des malades beaucoup. C'est des malades qui étaient dans des situations assez terribles, physiquement, etc., de déchéance, etc.
Mais pour autant, souvent
en phase terminale, et comme toutes les personnes en phase terminale, évidemment, c'est assez terrifiant. Mais surtout, il n'y avait pas pour autant de campagne de prévention ciblée ou de prise en compte politiquement de cette épidémie. Donc, il me semblait qu'il y avait un hiatus là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de montrer ce moment où on a essayé de changer, nous, les représentations de cette maladie, de se manifester en tant que séropositif et malade, d'essayer de changer les mentalités, de changer les politiques à partir de ça. Comme vous le savez, en plus en France, le pouvoir est très centralisé à Paris. Donc, quand on était Act Up Paris, on avait à peu près tous les pouvoirs en place sur lesquels on pouvait faire pression pour changer les choses, quoi.
Cependant, on comprend à travers votre film qu'il y a une inertie, voire une sorte d'indifférence, à la fois des politiques comme de la société en général.
Oui. Mais c'était il y avait une chose que disait très très bien Didier Lestrade, qui est un des fondateurs d'APT Paris. Et je l'avais entendu à la télé, c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré à ACTAP. Il avait dit qu'il existe en France une communauté SIDA. La communauté SIDA, elle est composée des malades, de leurs proches, des associations, des médecins qui s'occupent des malades, du personnel hospitalier. Et ces gens-là vivent une épidémie terrible que le reste de la société ne voit pas. Et je pense qu'il y avait ce sentiment aussi que parce que l'épidémie touchait des minorités comme les homosexuels, comme les toxicomanes, comme les hémophiles, le reste de la société s'en accommodait assez bien. Et les prisonniers, les prostituées, tout ça, etc. Et donc, nous, quand on a... ACTAP a été créé majoritairement par des hommes gays, mais il a été assez vite rejoint d'abord par des femmes, etc., et puis par des toxicomanes, et ça. Mais même si on partait de cette communauté-là, on visait à défendre les droits de toutes les minorités touchées et ignorées par le reste de la société. C'est ça qui nous intéressait profondément. C'était de se manifester. Manifester dans la rue, c'était se manifester déjà. Donc, c'était aussi un lieu, et c'est pour ça que c'est un lieu de fiction déjà, où on se réinventait soi-même, qu'on arrêtait de subir cette épidémie pour en devenir des acteurs et créer à partir de ça, créer des nouvelles images, créer des nouvelles manières de parler de cette épidémie qui nous semblait manquer dans la société française.
Et puis, corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait aussi une appréciation de la société qui était plutôt théorique. Et là, ça donnait une réalité, absolument, une incarnation.
Exactement. Mais pourquoi je n'ai pas trouvé de sujet sur le sida? Parce qu'en fait, j'ai trouvé comme sujet...
Le sang contaminé?
Non, dans ce film-là, la question de l'incarnation. Mmh. La question du fait que ce sont des gens qui incarnent leur propre maladie. Mmh. Et notamment sur le personnage principal, le personnage de Sean, c'est un garçon qui surjoue parfois dans les débats ce qu'il est, sa maladie, etc., mais qui la surjoue vraiment de manière un peu théâtrale, mais pour faire prendre conscience de la situation dans laquelle étaient les malades à l'époque, les séropositifs, et le niveau de stigmatisation ou d'indifférence dans lequel l'indifférence était au mieux et la stigmatisation c'était au pire, mais c'était pas loin l'un de l'autre. Et c'est vrai que il y avait ce sentiment-là, cette impression de jouer sa propre maladie, de se réinventer dans ce groupe-là que je voulais montrer dans le film.
Et puis c'était bien que des mouvements comme aussi d'action, c'est un peu dérapé, mais comme ACT UP, jugement personnel, mais que des mouvements qui étaient à la fois militants et en même temps qui avaient une dimension sociétale puissent apparaître, puisque après l'épidémie est devenue une pandémie au niveau mondial.
Elle était déjà une pandémie à l'époque, et c'était vrai que c'était un... Enfin, il y avait déjà en France, il y avait déjà tellement pas de prise de conscience sur ce qui se passait en France de la part des pouvoirs publics. Mais alors, par contre, il y avait une indifférence absolument totale sur ce qui se passait à l'extérieur, en dehors de l'Occident, et qui était pourtant très important. Et même encore aujourd'hui, on est quand même dans une situation où, en tout cas, je ne peux pas parler pour la Suisse, hein, parce que je ne connais pas assez bien, mais en tout cas en France, avec le nouveau président, on sent qu'il y a une absence de prise de conscience. Alors qu'on a les moyens de d'enrayer cette épidémie. Maintenant, on commence à avoir vraiment les traitements préventifs, etc. Mais ça demande une volonté politique, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'exigences politiques et d'inventivité politique que je ne vois pas être mise en œuvre pour le moment, quoi. Et ça, c'est dommage, parce que là, il y a eu à Paris 3 jours ou 4 jours de conférences sur le sida, conférences mondiales avec des grands chercheurs, avec des choses très positives, etc. Mais en réalité, on sait qu'on n'arrêtera pas l'épidémie si on ne s'intéresse pas encore aux minorités qui sont encore trop touchées par elle, notamment les migrants, notamment les prisonniers, notamment les prostituées. Et que là, il faut faire un travail spécifique qui demande de changer les politiques répressives aussi. Et qu'il faut aussi le faire à l'étranger, permettre à des pays comme les pays de l'Est de l'Europe ou l'Asie aussi d'avoir accès au traitement. Et que si on ne fait pas tout ça, il faut arrêter de rêver. On ne va pas interrompre l'épidémie de sida juste dans nos sociétés, avec nos frontières, où on serait soi-disant en sécurité par rapport à l'épidémie. Quoi.
Et dans les statistiques qui sont sorties récemment de l'OMS, il y a une recrudescence chez les hétéros.
Mais il y a une... pour encore parler pour la France, on n'est pas accablé par les campagnes de prévention. Il faut quand même être clair, l'information... s'est perdu, c'est-à-dire qu'il y a eu cette époque d'ACT UP et encore un peu après, où d'un seul coup il y a eu des prises de conscience, on en a beaucoup parlé à l'école, au collège, etc. Et maintenant, c'est vrai que j'ai le sentiment que cette période, avec les trithérapies qui ont été quand même une bonne chose, heureusement, parce que ça a quand même sauvé pas mal de gens autour de moi, qui sont toujours relativement en forme en tout cas, mais avec cette bonne nouvelle-là, comment dire, l'exigence de prévention a un peu disparu. Et ce qui fait que forcément, comment dire, c'est presque mécanique, hein, malheureusement. Les contaminations reprennent. Et en France, chez les jeunes gays aussi de moins de 25 ans, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il faut relancer. Et encore une fois, là, la prévention passera par le fait que les gens se fassent dépister et se fassent mettre sous traitement le plus tôt possible. Et que les gens qui prennent des risques prennent un traitement prophylactique ou fassent vraiment attention à mettre vraiment le préservatif tout le temps. Mais tout ça, ça se fait. Il vaut mieux le faire en discutant avec des spécialistes, etc., d'être un peu suivi. Et ça, si on le fait, on peut arriver à penser à une fin de l'épidémie.
Vous parlez de discussion, je reviens à votre film où l'importance de la parole est primordiale. Et en tant que spectatrice, en tout cas, je l'ai vécu comme si j'étais partie prenante du film. Je me sentais intégrée au débat, à toutes ces assemblées.
Oui, parce que moi, je veux pas que le spectateur se sente extérieur au film. Je veux pas que le spectateur soit un spectateur en réalité. Je veux que le spectateur en soit de cette histoire.
C'est réussi.
Et c'est moi, c'est une idée que j'adore. Et donc j'ai fait comme je fais quand je suis rentré acteur, c'est-à-dire qu'il y avait un type qui présentait le groupe et qui présentait comment fonctionnait le groupe. Et on se disait, ah, c'est super cadré. Mais après, quand la réunion commençait, on s'apercevait qu'on était un peu perdu. Et contrairement à ce qu'on pense souvent dans le cinéma, il vaut mieux perdre un peu le spectateur que de le prendre toujours par la main comme si c'était un enfant qui ne comprenait rien à rien, mais de le plonger dans un bain comme ça, où d'un seul coup, il est obligé de réfléchir tout le temps à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il regarde, etc. Et moi, c'est une chose que j'ai adoré faire, et je pense que ça permet au spectateur lui-même d'incarner cette histoire et d'incarner cette lutte.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotionnel et de personnel dans le film quand même, même si ce n'est pas une autobiographie. Et il y a cette scène qui est terrible, on imagine que si on doit la vivre, c'est vraiment éprouvant, c'est d'habiller l'ami qui vient de mourir.
Oui, alors cette scène, effectivement, je l'ai vécue. J'ai habillé un copain qui était mort avec sa mère qui lui parlait comme s'il était vivant. Et c'est vrai que c'est curieux de dire ça, mais d'une certaine manière, à l'époque, je l'ai relativement bien vécu. Je pense que je le vivrais beaucoup moins bien à mon âge, en fait. C'est-à-dire 25 ans après, quand même, on est un peu vieilli. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation, on se raccroche à des choses un peu étranges. Alors moi, je trouvais un peu ridicule que la mère lui parle, qu'elle lui demande de plier les jambes, etc. Et j'avais envie de lui dire, mais il est mort, enfin. Et en même temps, c'est des moments très très forts, quoi, qui marquent à vie. Mais je sais que moi, ce que je trouvais très émouvant, c'est que j'avais l'impression que mon copain, qui avait 28 ans, qui n'était pas très vieux, que c'était comme un enfant, qu'on rhabillait comme un bébé, quelque chose comme ça, et qu'on lui mettait sa plus belle chemise, etc. Et qu'il y avait un truc extrêmement étrange dans cette situation. Moi, j'avais l'impression que j'étais en apnée, que je ne respirais plus, que j'étais mort avec lui, que je respirais aussi peu que le corps que j'avais en face. Et c'est vrai que c'est, pour moi, c'était important de montrer ces scènes et de les montrer assez, pas platement, mais en tout cas simplement. Encore une fois, pour pas faire de l'esbrouf, pour pas dire au spectateur qu'il était devant un écran, mais pour qu'il fasse partie de la scène. Voilà, ça a été. Mais c'est marrant comme le scénario a été. C'est sur le scénario que ça a été le plus dur pour moi de travailler, c'est-à-dire où c'était pour moi émotionnellement le plus compliqué. Parce qu'après, quand on parle au tournage, c'est comme quand on a. Il faut être assez fort pour les comédiens, il faut être assez fort pour l'équipe, il faut être. Donc en fait, c'est tellement extériorisé que ça va mieux, quoi, d'une certaine manière. Mais le scénario a été très dur à écrire et le montage a été difficile aussi. Parce que là, je me retrouvais un peu plus seul face aux images.
Mais avec le scénario, vous étiez à deux, non?
Alors j'ai eu un consultant qui était Philippe Mangeot, qui était aussi act-up un peu avant moi. Et on s'est connus là-bas. Mais la plupart du temps, j'écrivais quand même pour l'écriture, j'écrivais seul. Donc, mais par contre, je pense que c'était vraiment très très important pour moi. Je le voyais au moins une fois par semaine et d'avoir un retour avec lui et de reparler des choses parce que pareil, ça m'obligeait un peu à objectiver, ça m'obligeait à ne pas m'enfoncer complètement dans le film tout seul, quoi. Ça, c'est très important.
Et en tant que spectateur, on a beaucoup d'empathie, de compassion et d'émotion quand même, quand on voit cette maman justement parler à son fils, après son compagnon qui dit, ben voilà, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour passer la soirée.
La nuit.
Voilà, la nuit, on se doute bien qu'ils ne vont pas faire du Monopoly. En même temps, il n'y a pas ni voyeurisme, ni indécence, il y a beaucoup de pudeur.
Je dirais qu'il y a, enfin en tout cas, de la simplicité. C'est presque comme si j'avais essayé de de mettre à plat les choses que j'avais vécues de manière très simple. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer, enfin de montrer en tout cas, c'est l'étrangeté de ce genre de scène. Mmh. C'est pas tellement leur le côté sensationnel de la scène, c'est leur étrangeté dans, à la fois dans leur banalité et dans le côté presque surréel, parce que on, c'est des drôles de moments, quoi. Et c'est à la fois assez triste et il y a des moments assez joyeux. On voit bien que les gens se raccrochent à la vie quand même très très fort. Et que d'un seul coup, tout le monde se raccroche à l'idée qu'il faut refermer un canapé, etc. Et que ça amuse tout le monde d'un coup. Il y a des espaces, c'est comme si on était dans un... Il y a des trous d'air par moment. Il y a et toutes ces sensations, c'est plus des sensations que des sentiments, en fait, pour moi. C'est presque sensoriel. Ça permet de ne pas être dans un truc pleurnichard, mais dans une scène qui laisse la place au spectateur pour être envahi par son émotion à lui. Et pas une émotion que moi j'aurais imposée au spectateur. Je trouve ça plus intéressant.
Vous parlez de la nécessité de se rattacher à la vie. Alors c'est très bien exprimé quand ils sont tous en train de danser sur la musique de l'époque, c'est-à-dire la techno.
Là, c'était la house music surtout, mais c'est vrai que c'était pour moi très important de montrer ces moments de lâcher prise et presque aussi pour le spectateur, je crois vraiment.
Presque d'euphorie.
Exactement, et puis ces scènes, c'est comme les négatives des scènes de réunion, où dans les scènes de réunion, c'est beaucoup de gens qui parlent. Entouré de blanc comme ça, etc. Et les scènes de boîte, c'est plutôt des gens qui dansent, qui ne parlent plus. Et c'est environné de noir et on voit pas tellement le lieu. C'est comme quand même un lieu abstrait où il y a plus de social, il y a plus de société, il y a plus rien de tout ça. Il y a juste des corps qui dansent et qui se regardent. Et moi, j'aime beaucoup l'idée dans un club comme ça, on est différent que dans le reste de la vie. On perçoit les autres de manière très différente. Un peu, je trouve, comme dans un cinéma, où on est tous ensemble, mais on est seul. Et en même temps, on se voit un peu dans le noir, on se devine dans le noir, etc. Et j'adore vraiment cette idée, cette espèce de rituel un peu curieux qui est de se retrouver ensemble, mais un peu seul.
Presque de communier par la musique.
En tout cas, il y a un truc presque, et notamment à la fin du film, il y a presque un truc de gospel. Dans, je m'en suis aperçu parce que on découvre son film en le faisant, en se demandant pourquoi on fait danser les gens à tel moment, ce que ça signifie, parce que chaque scène de club dans le film est un peu différente, exprime autre chose, a sa propre émotionnalité, j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'était, voilà, j'avais l'impression que je découvrais le sens, et qu'à la fin, on termine effectivement sur un truc presque de gospel, un truc pas mystique, mais en tout cas détaché des contingences de la vie, quoi.
On va quand même parler des magnifiques comédiens qui incarnent. Est-ce que, parce que c'est un film choral comme votre premier film Les Revenants, est-ce que vous avez déjà eu des idées de choix de comédiens au moment de l'écriture ?
Non, pas du tout. Il y a quand même Adèle Haenel, on y avait pensé avec ma productrice, parce que je la connaissais un peu par ailleurs et qu'on avait passé une soirée ensemble et qu'elle m'avait dit à la fin de la soirée que si un jour j'avais un rôle pour elle, elle serait partante. Elle avait beaucoup aimé mon film précédent, Eastern Boys,
Gagné, précisons pour les auditeurs, qui a gagné à la Mostra, à la section Horizon.
C'est ça. Et c'est vrai que moi, je voulais travailler avec elle, etc. J'ai eu une inquiétude à un moment parce que je me suis dit, comme c'est des acteurs qui ne sont pas totalement connus, que comme elle était plus connue, qu'elle ne se fonde pas dans le groupe, mais elle adore le collectif. Au contraire, ça la rassure et vraiment, elle a une faculté à être par moment même simplement comme une silhouette dans le film. Elle a accepté ce contrat-là dans certaines réunions où elle est là, mais elle ne parle pas. Et c'est tout à son honneur. Et sur les autres acteurs, moi, je mets très, très longtemps à trouver les acteurs. Là, j'ai mis 9 mois, mais il y a beaucoup de personnages. Mais il faut trouver... Moi, je sais que maintenant, tout ce qui m'intéresse, c'est les acteurs et les lieux. C'est tout ce qui m'intéresse dans le film, à partir du moment où je suis content du scénario, bien entendu. Et c'est vrai que là, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver les bons acteurs. Et après, de voir si ces acteurs fonctionnaient ensemble, parce que ça, c'est l'autre chose. Et à partir du moment où vous avez les bons acteurs, les bonnes personnes, et que les gens transforment votre scénario dans autre chose, que les personnages ne sont pas ceux que vous pensez au départ, parce que vous faites un pas vers les comédiens, vers ce qu'ils sont profondément, etc. Là, ça rend le film, pour moi, plus fort et plus joyeux à tourner. Et on a fait des répétitions pendant 3 jours. Qui sont extrêmement bien passés, où moi j'ai réajusté des choses parce que je me suis aperçu qu'il y avait des trucs qui ne passaient pas, donc j'ai réécrit, qu'il y avait des comédiens qui ne comprenaient pas leur texte parce que c'est un texte un peu historique pour eux, ça parle de choses très très précises, etc. Donc j'ai fait toute cette remise à niveau, et puis sur le tournage, voilà, on tournait à 3 caméras, et avec ma directrice Jeanne Lapoirie, en fait, on a ce système, on tourne très très vite, au bout de 20 minutes, on tourne une prise, les scènes de réunion, c'est tourné à chaque fois en un seul bloc. Donc, on ne fait pas des arrêts. Ils tournent toute la scène. Et puis après, et au fur et à mesure de la journée, je change des éléments, des places, même des vêtements, même des phrases, etc. Et peu à peu, on arrive à avoir une scène que je trouve bien. Et c'est vrai que en fait, ça me permet aussi au montage d'avoir des prises un peu plus maladroites, mais qui peuvent être intéressantes au niveau du jeu, du fait des maladresses, et des prises plus techniques, plus professionnelles, on va dire, où on sent que les gens sont plus convaincus de ce qu'ils racontent. Et donc, je peux jouer avec toutes ces différentes prises pour créer une vie, de la vie particulièrement, avec des heures, avec des choses plus lisses, voilà.
Robin Campillo, vous mentionnez là des ajustements, des modifications. Ouais. Est-ce que c'était aussi lié à des suggestions, peut-être, des comédiens?
Pas forcément. C'est un tout. C'est-à-dire que moi, je discute avec les gens. Je discute avec tout le monde. Mmh. Je trouve ça... D'abord, ça m'angoisse, moi, de me dire que je ne porte pas le film tout seul. Mmh. Et je pense que cette question de partage fait que les acteurs trouvent mieux aussi leur place dans le film. Donc, on discute. Alors, il y a des choses que j'impose, hein, évidemment. Et il y a des choses où, quand je sens que l'acteur... j'écoute un peu ce qu'ils me disent pour qu'eux soient à l'aise. Et c'est vrai que c'est un dialogue. Mais c'est un dialogue, c'est pas un tête-à-tête parce qu'on est plusieurs. La plupart des scènes sont chorales dans le film. Il y a très, très peu de scènes... Il y en a plus vers la fin, mais on est quand même et donc, en fait, les gens se parlent aussi entre eux. Et ça, c'est formidable de mettre en place quelque chose comme ça et d'avoir l'impression, moi, que j'ai plus qu'à faire comme un documentaire. Je sais plus quel réalisateur disait, faire un film, c'est faire un documentaire sur des comédiens. Ben, j'avais un peu ce sentiment-là, de faire un documentaire sur des comédiens qui, comme je disais, je les avais choisis, je pense, assez précisément. Ils étaient pour moi toujours tellement justes. Alors, il pouvait y avoir des problèmes. En adéquation avec le film, donc je n'avais plus qu'à faire attention à quelques détails, ce qui me demandait déjà beaucoup de travail, hein, bien entendu. Je ne veux pas faire de la fausse modestie, mais c'était vraiment très fort de travailler ensemble à la matière du film, à savoir ce que racontait la scène. Moi, pour moi, ça me permettait de redécouvrir la scène, de repenser ce que j'avais essayé de faire sur le scénario et de le repenser plus précisément grâce aux autres. Et aux techniciens autant qu'aux comédiens d'ailleurs.
Quand on voyait ces scènes de débat, on a l'impression que vous étiez le chef d'orchestre avec des musiciens, oui. Qui certains étaient plus peut-être lyriques que d'autres, mais oui. Des musiciens.
Oui, et c'est quand vous dites certains plus lyriques que d'autres, il y a aussi des questions dans un orchestre de contraste. Mm-hmm. Et pour moi, les contrastes, j'ai pris un acteur argentin, Nahuel Pérez Biscayer, qui joue le personnage de Chol, qui est un acteur baroque, on peut le dire, qui est presque apparemment dans le surjeu, mais comme l'est son personnage, d'une certaine manière. Et à côté, en face de lui, j'ai mis quelqu'un comme Arnaud Valois, qui est un type qui est beaucoup plus rentré dans le jeu, beaucoup plus sobre, pas timide, mais en tout cas beaucoup plus ordonné dans sa manière de jouer.
Introverti.
Et que le rapport entre les deux, ça produit de la musique. Musique particulière, et quand ça se passe comme ça, et qu'à côté il y a aussi une Adèle Haenel et qu'il y a un Antoine Reinhardt qui joue le personnage de Thibault, le président de l'association, et d'autres personnes, et bien ces voix qui se répondent, ça crée une musicalité très très forte.
Un cœur,
exactement. Et pour moi, c'est vrai que c'est un truc très très jusque, et d'ailleurs, le cœur le plus fort après, ça reste les slogans dans une manif. Où là, d'un coup, les gens parlent ensemble. L'effet choral, là, est à son maximum. Et ça arrive à quelques fois dans le film, les slogans, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que simplement un slogan, c'est comme un phénomène musical, où les gens sont à l'unisson, en fait.
Scandés
à un certain rythme, etc. Et c'est vrai que c'était un truc... parce que quand on crée des slogans comme ça, on cherche la musicalité. On cherche à ce qu'il y ait une syncope un peu intéressante à l'oreille, etc. Et c'est tout ça qui, enfin, moi, m'a passionné. C'est pas simplement de le recréer, mais ça aurait été ennuyé de le recréer. C'est de le revivifier avec des acteurs différents de l'époque, des gens qui sont pas de ma génération, et de redonner une vie à ça. J'ai pas voulu faire un film historique au sens où on se dise c'est du passé. J'ai pas fait une image sépia ou noir et blanc ou ce genre de choses. J'ai au contraire essayé de filmer un présent. Comme si tout était au présent, même si c'est un film d'époque.
Ben, là où je rebondis sur ce que vous dites, c'est un film d'époque et peut-être un film historique pour la génération actuelle qui va avoir des scènes qui nous ont marquées. Je pense à, je ne sais pas si on dit Encapotage, là, de l'obélisque à Paris. Et pour les jeunes, maintenant, ça a presque une valeur historique.
Oui, c'est très étrange d'ailleurs, parce que là, j'ai fait quand même pas mal d'avant-premières en France où je suis assez content parce qu'il y a des gens à peu près de tous âges qui viennent voir le film, et ça c'est quand même... Et sur les jeunes, les 18-25 ans, c'est une catégorie comme ça, mais je ne sais pas exactement l'âge des gens qui viennent me parler, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment... Les gens sont très émus par les scènes de réunion. Les jeunes, sur cette question, en tout cas en France, de la perte de la démocratie, l'impression de pouvoir prendre la parole à plusieurs. Je m'interroge beaucoup de savoir si vraiment c'est Internet qui produit cet effet-là, que les gens sont très radicaux sur Internet, etc. Et comme les gens ne se rencontrent pas, il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a que juste des interminables prises de position, de postes ou de réponses à des réponses. Et que ça, j'ai l'impression que
parfois outrancière.
Parfois outrancière, mais surtout, c'est une espèce de radicalité qui n'a aucune réalité, parce que les gens ne descendent pas dans la rue pour autant, ou ne font pas. Alors qu'en France, les gens avaient l'habitude de descendre dans la rue. Et c'est vrai que sur les jeunes, par exemple, ils ont tous connu les capotes dans leur collège, leur lycée, etc. Et là, ils comprennent la genèse.
Et l'importance
de ce combat-là. Et pour eux, c'est très, très émouvant. C'est très, très impressionnant de s'apercevoir que ça a été le résultat d'une lutte et pas du tout une évidence politique. Alors que j'ai quand même l'impression qu'en Suisse, ça a été plus évident qu'en France. J'ai l'impression que la pratique politique en Suisse est beaucoup plus pragmatique qu'en France. Et qu'en France, ça a toujours été assez compliqué sur ces questions-là. On l'a vu avec le mariage gay, hein, par ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un... Pour les jeunes, il y a une jeune fille pendant un débat qui m'a dit que sa mère lui racontait les histoires d'Hector comme si c'était une légende, ce qui est très étrange.
Pour l'endormir.
Pour l'endormir, oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais je pense que c'était... Bon, après, je pense que sa mère devait être gauchiste. Enfin, je pense qu'il y avait quand même un truc comme ça, qu'elle était déjà politiquement très, très marquée, quand même. Mais je trouvais ça extrêmement touchant que ce soit pour elle comme si on lui avait lu un livre de fantômette, quoi. Il y avait un truc que je trouvais très, très touchant, quoi.
Et cette génération a l'air plus conscientisée, enfin, elle a l'air très conscientisée, que ce soit l'écologie, que ce soit justement certains combats sociaux. On doit vous quitter, malheureusement, Robin. Rapidement, les projets.
J'ai deux projets. J'ai un film d'anticipation que je comptais faire après avoir fait Mister Buzz à la place de celui-là, mais qui m'intéresse parce que c'est que des personnages. Les personnages principaux sont féminins, donc ça va un peu changer. Même si dans celui-là, il y a quand même pas mal de personnages féminins, mais là, c'est des protagonistes du film, donc j'ai très envie de le faire. Et j'ai un autre projet dont je ne peux pas parler parce que c'est une adaptation que je n'ai pas les droits.
Muchísimas gracias, Robin.
Gracias.
Alors, on va passer à la photo.
Ah, d'accord. Merci.
Ben avec plaisir, c'était très intéressant.
Ça va ?